Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voyant les foules, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples vinrent auprès de lui. En prenant la parole, il les enseignait en disant : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers.
Alléluia, 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 alléluia.
Tous les hommes recherchent le bonheur. C'est une constatation de toujours, et c'est ce que rappelait saint Augustin dans ses sermons. Il a longtemps cherché le bonheur avant qu'il ne se mette à le trouver, à trouver son Seigneur. Il dira dans ses confessions : « Longtemps je t'ai cherché, tard je t'ai trouvé ». Pascal nous dit dans ses pensées, tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, est ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. Eh bien, nous, chers amis venus à Lourdes, que cherchons-nous sinon le bonheur? Sinon de retrouver ce dont nous avons rêvé quand nous étions jeunes? Sinon de répondre à nos attentes malgré les nombreuses déceptions de la vie? À dépasser notre inquiétude malgré la maladie, à réveiller ce goût de vivre, ce goût de bonheur constitutif de tout être humain. Et d'ailleurs, ce désir de bonheur, frères et sœurs, n'est-ce pas là la signature de Dieu déposée en notre cœur, la signature de notre Père, notre Créateur, le maître de notre vie, le maître de notre naissance et aujourd'hui le maître de notre renaissance. Aujourd'hui, à travers l'Évangile, le Christ lui-même nous a annoncé le bonheur. Nous l'avons entendu. Bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Alors on peut se demander, chers amis, comment donc le Christ a eu ces paroles si inspirées et si déroutantes? Comment a-t-il dit cela? Est-ce que, au moment où il a vécu avec ses disciples en Palestine, il a dit toutes ces béatitudes d'un seul coup? On n'en est pas certain, et vraisemblablement, le Christ, à différents moments, après certaines rencontres, s'arrêtant sur les personnes qu'il saluait, s'adresse à eux en leur disant une béatitude. Ce fut le grand mérite du cinéaste Pasolini dans l'Évangile selon saint Matthieu, où il nous montre le Christ sur la montagne, croisant les gens qui étaient autour de lui pour venir l'écouter, et selon les situations, il leur dit la parole qui leur convenait à eux. C'est ainsi que peut-être il est permis de l'imaginer à des gens simples et bons qui étaient près de lui, peut-être un disciple à côté de sa mère, eh bien, il va dire « Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux ». Face à des gens qui se disputaient je ne sais pourquoi, eh bien, il va dire « Heureux les doux, ils posséderont la terre ». Face à des gens qui auparavant étaient en dispute et semblent réconciliés puisqu'ils sont côte à côte, il leur dit « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. De toutes ces béatitudes entendues aujourd'hui, chers amis, il y en a deux qui sont incontournables. Il y en a une, la première, qui résume toutes les autres. Bienheureux les pauvres de cœur. Et à partir de cette pauvreté spirituelle, toutes les autres attitudes sont contenues et se retrouve. Et puis sans doute à la fin de sa prédication, quand les objections de certains auditeurs s'accumulaient, quand ses disciples et lui-même sont en butte à des oppositions, le Christ va leur dire « Eh bien, heureux les persécutés pour la justice, tenez bon jusqu'au bout. » Voilà le bonheur que le Christ a annoncé. C'est un bonheur réel, mais c'est un bonheur dur à comprendre car il est paradoxal. Mais en fait, si on pose la question « qu'est-ce que le bonheur ?», il faut surtout répondre « qui est le bonheur ?». Car le bonheur dans toute cette histoire, c'est le Christ lui-même. Le Christ est le bonheur et il va le montrer. Par exemple, quand les disciples de Jean qui étaient en prison viennent voir Jésus pour lui demander « Mais qui donc es-tu ?» Il va dire « Répétez ce que disent les prophètes, allez dire à Jean, eh bien les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Le royaume de Dieu, c'est le Christ, le bonheur attendu, c'est le Messie, en chair et en os, dans tout son être, c'est le Christ. Oui, désormais, nous savons que seul le Christ peut être notre bonheur. Et c'est ce que Pierre va dire un jour, « Mais à qui irions-nous donc, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie. Comment pourrions-nous te quitter? Nous serions perdus. Sans toi, notre bonheur n'existe plus. » Alors, vous comprenez bien que dans ce pèlerinage, pour atteindre le bonheur que nous attendons, il nous faut retrouver Jésus-Christ, celui qui précisément nous a permis de prier en vérité notre Dieu et de lui dire notre Père. Écouter le Christ, recevoir sa consolation, recevoir son pardon, recevoir sa grâce et pouvoir être heureux. Le bonheur du Christ est pourtant paradoxal. Et plus que tout autre pèlerinage, celui de Lourdes Cancer-Espérance porte en son sein tout le paradoxe du bonheur humain. Nous sommes tous habités par ce bonheur et pourtant nous souffrons. Le paradoxe du bonheur chrétien, il n'est pas ce bonheur du monde qui consiste en un cumul de biens, puisque ces biens, un jour, on les perdra. Ce n'est pas le cumul des années, puisqu'un jour, nous verrons bien que ces années finiront. Ce n'est pas un cumul de gloire, puisque nous savons bien qu'elle est passagère, ni un cumul de foule et de publicité, puisque la foule est versatile. Il nous faut, pour atteindre le bonheur du Christ, traverser les apparences et faire l'expérience d'être aimés comme des enfants de Dieu. Je me souviens quand j'étais aumônier de lycée. J'étais alors à Besançon, je rentrais dans le lycée et je succédais à une classe de philosophie. Je connaissais le professeur de philo, on se saluait, mais lui n'était surtout pas chrétien. Au contraire, c'était un athée militant et il avait fait écrire, ou l'avait-il écrit lui-même, sur le tableau, sachant que l'aumônier viendrait après lui, « Comment donc croire un Dieu qui dit « Bienheureux les pauvres » ?»« Dieu serait-il contre la prospérité ?» Et alors, cette écriture sur le tableau nous valut avec les jeunes lycéens un des débats les plus passionnants dont je garde le meilleur souvenir. Et avec eux, j'ai creusé le paradoxe du bonheur dont Jésus voulait parler. Parce que ce Dieu n'aime pas la faim, ce Dieu en qui nous croyons n'aime ni le malheur ni les larmes. Au contraire, par la bouche de Jésus, Dieu proclame « Bienheureuses les larmes qu'il vient lui-même essuyer, les dénuements qu'il vient combler de ses mains, la faim qu'il vient en personne apaiser. » Comme le rappelle un théologien, le père Guillet, ce n'est pas parce qu'il y a de la souffrance et du mal dans le monde que Jésus nous appelle à la joie. Ce serait une sotte provocation. Mais c'est parce qu'il vient, lui Jésus, mettre fin à cette souffrance, qu'il vient précisément là où la souffrance est la plus écrasante, là où la misère est la plus noire. D'un bout à l'autre, le sermon sur la montagne veut nous révéler l'attention du Père. Et donc, au sermon sur la montagne, c'est l'heure de la joie. Parce que, avec Jésus, l'attention du Père vient se poser sur le malheur de l'homme le plus profond, le plus inguérissable. Oui, le Père espère le bonheur de ses enfants. Le Père, à travers son Fils Jésus, partage la souffrance de ses enfants. Alors, frères et sœurs, en conclusion, est-ce que ce bonheur est pour nous ? Naturellement, je réponds avec vous, mais bien sûr. Pèlerins, nous nous remettons en quête du bonheur, d'un bonheur plus vaste que toutes les conditions du monde, plus vaste que la seule guérison corporelle. Nous attendons non seulement que le corps soit guéri, mais que plus fondamentalement, notre cœur trouve la paix, don de Dieu. Alors il y aura toujours une tension dans notre vie. Elle subsistera, cette tension, et il nous faut l'assumer. Le bonheur n'est jamais total. Il y a une tension entre les parcelles du bonheur déjà trouvé et la plénitude du bonheur qu'on attend, mais qui n'est pas encore. nous vivons le déjà là et le pas encore. Jésus va regarder une nouvelle fois ses disciples, ces grands gaillards solides, et il va leur dire, si vous ne ressemblez pas à un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. En invitant à ressembler à l'enfant, il n'invite pas à l'infantilisme, ce qui serait vraiment puéril, mais il invite au regard pur, au regard toujours confiant en ce Père qui peut tout. Alors en conclusion, chers amis, je voudrais vous citer l'écrivain Georges Bernanos. Quand on voit ses photos, c'est un solide gaillard. Et en même temps, quand on le lit, on découvre à quel point son âme vibre comme celle d'un enfant. Et dans un de ses écrits, il va dire, il a déjà vécu longtemps et il dit, « Qu'importe ma vie, je veux seulement qu'elle reste fidèle à l'enfant que je fus. » Oui, dit-il, ce que j'ai d'honneur et ce peu de courage, je le tiens de l'être aujourd'hui pour moi mystérieux, qui trottait sous la pluie de septembre, le cœur plein de la rentrée prochaine. Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure venue, c'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. N'est-ce pas, chers amis, une parole d'espérance? N'est-ce pas cela le chemin du bonheur? Notre Père, que ta volonté soit faite.